Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Suite ce mardi d'une semaine utile et redoutable au cœur de la philosophie d'Emmanuel Kant et en seule compagnie de Michael Fossel, maître de conférence à Dijon et remarquable lecteur de Kant. Après la première critique, comme on dit, c'est-à-dire la critique de la raison pure, c'est de la seconde ou la deuxième critique, pardon, la critique de la raison pratique que nous allons parler aujourd'hui en d'autres termes. Après la connaissance, c'est de liberté qu'il sera question.
Deux choses remplissent l'âme d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes à mesure de la fréquence et de la persévérance avec laquelle la réflexion s'y attache. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Ces deux choses, je n'ai pas à les chercher, comme si elles étaient enveloppées de ténèbres ou situées dans une région transcendante, au-delà de mon horizon. Et je n'ai pas à les conjecturer seulement. Je les vois devant moi et je les rattache immédiatement à la conscience de mon existence. La première commence à la place que j'occupe dans le monde sensible extérieur et étend la connexion dont je fais partie à l'immensité indéfinie, avec des mondes au-delà des mondes et des systèmes de systèmes, et en outre, aux temps illimités de leurs mouvements périodiques, au commencement de ceux-ci et à leur durée. La seconde commence à mon invisible moi, à ma personnalité, et me représente dans un monde ayant une infinitude véritable, mais que seul l'entendement peut saisir, et avec lequel, mais en même temps aussi par là, avec tous ces mondes visibles, je me reconnais lié par une connexion, non pas simplement contingente comme dans la première, mais universelle et nécessaire.
Bonjour Michael Fossel.
Bonjour.
Rebonjour donc, c'est la deuxième émission, le deuxième temps de cette semaine sur et autour de la pensée d'Emmanuel Kant, de la pensée, de la philosophie ou de la connaissance d'Emmanuel Kant. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi, le texte qu'on vient d'entendre lu par Anne Brissier est à mes yeux, mais ça n'engage que moi, l'un des plus beaux textes de Kant, c'est d'ailleurs l'un des plus fameux. Que signifie cette incorporation de la loi morale et simultanément cet homme qui se tourne vers le ciel étoilé?
Oui, c'est comme si l'homme, en regardant, était ramené sans cesse du regard vers ce qui le dépasse, ce qui est au-dessus de lui, le ciel étoilé, à ce qu'il y a de plus intime en lui, à savoir précisément la loi morale. Et il y a là une espèce
de plus intime et donc de plus infini.
Voilà, de plus infini, comme si au fond il ne fallait pas seulement chercher l'infini au-delà de soi, et en particulier dans l'espace. Ça sera la leçon du sublime, on y reviendra. C'est ça, le ciel étoilé, il y a quelque chose de sublime qui me dépasse toujours. Mais ce quelque chose, je crois, c'est un peu, vous savez, comme Augustin, lorsqu'il dit « j'ai longtemps cherché Dieu dans le monde, là où je ne pouvais pas le trouver avec les manichéens, je me rends compte qu'il est ce qu'il y a de plus intime à moi que moi-même, qu'il est en moi. » Donc,
mais ça, c'est une méthode,
ça n'est plus Dieu,
c'est une méthode familière aux philosophes, d'ailleurs. Dans La République, déjà, Socrate commence par parler de justice, puis à la fin du livre 1 de La République, il dit « mais le gibier était à nos yeux et nous ne le voyons pas. »
Oui, et c'est l'âme.
Et c'est l'âme. Il y a donc beaucoup d'entreprises philosophiques qui nous renvoient à ce que nous avons devant nous, en somme, un travail qui consisterait non pas à aller chercher au-delà des apparences, mais à regarder ce qu'on a devant soi. Hein. Kant le dit, hein, je les vois devant moi.
Oui, je les ai littéralement sous les yeux, mais pas de la même manière. Le ciel étoilé, bien sûr, ce sont en première approximation, d'abord, les yeux du corps, si je puis dire. La loi morale, la métaphore que Kant utilise le plus souvent pour définir la loi morale, le devoir, c'est des métaphores empruntées à l'ouïe. Elle est ce que je ne peux pas ne pas entendre, dit-il justement dans la critique de la raison pratique.
C'est une référence à Rousseau, ça.
C'est certainement, c'est la conscience.
La conscience
divin,
qui parle. Hein.
Qui parle.
Ouais.
Et on retrouverait même l'image du tribunal, hein, qui parfois même me juge, c'est-à-dire qui prononce une sentence. Eh bien, la loi morale, c'est ça une des grandes nouveautés de Kant, si l'on peut dire, dans l'histoire de la philosophie, c'est qu'il y a une certitude plus grande que toute certitude théorique, y compris celle que je suis, hein, au sens du cogito cartésien, c'est la certitude de mon devoir. C'est une certitude qui n'est pas d'ordre, qui n'est pas une connaissance au sens strict, mais qui est une injonction. Une injonction dont Kant, c'est ça le propre de ses deux grands livres de morale, Les fondements de la métaphysique des mœurs d'abord, La critique de la raison pratique de l'autre, dont Kant va faire en quelque sorte la généalogie. Il va rechercher d'où vient cette injonction qu'est la loi morale, d'où vient que j'ai une conscience indubitable dont je ne peux pas à laquelle je ne peux pas me soustraire de ce que je dois faire.
De sorte que chez Kant, il s'agit moins, et en général, on le réduit à cela. Kant n'est pas un donneur de leçons. Kant n'est pas celui qui dit voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Kant est celui qui élucide en chacun de nous ce qui en chacun de nous relève des conditions même du devoir. Il est celui qui fait presque, pour employer un mot de Foucault, celui qui fait l'archéologie du devoir en nous, plus que celui qui dirait voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire.
Exactement, il n'y a pas au sens strict de morale kantienne. Si par morale on entend une éthique des vertus, une définition des devoirs de ce que nous devons faire, sauf dans certains textes tardifs mais mineurs comme la doctrine de la vertu très tard dans l'œuvre de Kant. En revanche, il n'y a pas de morale kantienne, il y a une analyse kantienne de la moralité. C'est toujours pareil avec Kant, c'est un questionnement transcendantal, c'est-à-dire question de possibilité. Quelles sont les conditions de possibilité de la morale ? Pour qu'il y ait quelque chose de bon dans le monde, que faut-il réunir comme condition ? Et indépendamment, je dirais, c'est ça aussi la spécificité de ce qu'on a appelé en général, pour le critiquer, le formalisme kantien, c'est pas une affaire de contenu, c'est pas préférer telle ou telle chose, ça n'est pas privilégier telle ou telle attitude de vie. Hein. En un mot, commençant, la morale chez Kant, c'est pas l'affaire de réussir sa vie, c'est pas le problème ici, de réussir sa vie ou pas. Le problème est un problème de forme. À quel type de forme, de loi, dois-je soumettre mon action pour que cette action puisse être dite morale. Donc il réfléchit au fond à ce qui rend possible la morale, mais sans s'interroger sur ce qui la rend réelle. Il y a cette phrase célèbre des fondements. Peut-être n'y a-t-il jamais eu un seul acte purement moral commis dans le monde. Nous ne pouvons pas le savoir. Ce que la philosophie, en revanche, peut savoir, c'est à quelles conditions un tel acte est pensable.
Alors, pour le dire autrement, prenons un exemple tout simple. Hein. C'est un exemple, d'ailleurs, qu'on a coutume de prendre au nouveau chemin. Vous allez faire vos courses chez un commerçant, vous oubliez votre porte-monnaie. Le commerçant, le lendemain, vous y revenez, vous rend votre porte-monnaie. La question de savoir pourquoi il l'a fait est une question intéressante, essentielle. Bon, on pourrait dire l'essentiel est qu'il vous rende votre porte-monnaie. On pourrait se dire, il vous rend votre porte-monnaie parce qu'il a intérêt à le faire, parce qu'il se dit que du coup vous allez le tenir pour un honnête commerçant et par conséquent vous allez retourner chez lui. Qu'en somme, il y a là un impératif hypothétique. Hein. Si je veux que mon client revienne me voir, il faut que je me conduise honnêtement avec lui. On ne peut pas dire qu'il s'agit là d'un geste moral. En même temps, on pourrait imaginer peut-être que le commerçant rend ce porte-monnaie tout simplement parce que ce n'est pas à lui. À la limite, pourquoi ? Eh bien, parce que. Mais on ne le saura jamais, on ne pourra jamais déterminer la nature véritable du geste du commerçant.
Exactement, l'exemple est chez Kant, hein, l'exemple du commerçant qui rend la monnaie indûment reçue. Le problème, dit Kant, c'est qu'il faut distinguer au fond entre un acte social et un acte moral. L'acte social, c'est l'acte du commerçant qui rend la monnaie effectivement pour que le client revienne. Et c'est-à-dire qu'au fond, il agit, comme dit Kant, par conformité au devoir. Il se trouve que son action correspond et conforme à ce que nous devons faire moralement. Mais dans ce « il se trouve », on entend aussi le hasard, la contingence, dans certaines conditions, dans certaines circonstances. Après tout, on peut imaginer que dans d'autres circonstances, le commerçant pourrait très bien garder la monnaie sans prendre de risque.
S'il trouvait son intérêt dans le fait de ne pas garder, justement, de ne pas rendre la monnaie. Et bien à ce moment-là, c'est le même homme pourrait tout à fait, en pleine cohérence avec lui-même, ne pas rendre le porte-monnaie.
Exactement. C'est une logique que Kant, vous l'avez rappelé, appelle la logique des hypothétiques ou pragmatiques. C'est l'homo economicus dont on parle beaucoup aujourd'hui. Au fond, c'est un calcul d'intérêt. Kant, d'ailleurs, il faut le noter au passage, ne condamne pas ce type d'attitude qui fait l'essentiel de nos rapports sociaux et de nos relations sociales. En revanche, ce qu'il dit, c'est qu'un acte moral, strictement moral, c'est pas un acte que l'on fait par conformité au devoir, c'est un acte que l'on fait par devoir, c'est-à-dire par obéissance à la loi morale, en tant qu'elle est la loi morale. Je le fais parce que je dois le faire. C'est quasiment intransitif, si vous voulez. Les impératifs hypothétiques, c'est les impératifs sur le modèle « si ». Alors, si je veux alors être heureux ou continuer à ce que ce client vienne dans ma boutique, si vous voulez, alors je dois être honnête avec lui.
À quoi s'opposent les impératifs catégoriques ?
À quoi s'opposent les impératifs catégoriques dont la modalité est toujours, même quand on rédige la formulation, agit de telle sorte. Donc ce n'est plus un « si alors », ce n'est plus hypothétique en ce sens, c'est une injonction, une obligation inconditionnelle, c'est-à-dire qu'au fond, elle est indépendante des circonstances de la situation présente de l'action.
Mais alors, on a bien compris qu'il ne s'agit pas pour Kant d'établir une morale, de donner des conseils de morale, des conseils d'action. En somme, c'est pas dans la critique de la raison pratique qu'on trouvera des leçons de morale, c'est dans la Bible qu'on les trouvera. Et pourquoi pas, d'ailleurs. Mais c'est pas dans la critique de la raison pratique qu'on va les trouver. Mais en même temps, qu'est-ce qu'un Kantien aurait à dire du monde comme il est, et de la possibilité pour chacun d'agir, non pas conformément au devoir, mais de la possibilité vertigineuse pour chacun que son innocence ne soit pas durablement préservée du malheur ou de la méchanceté, en somme, du fait que nous agissons le plus souvent par intérêt. Qu'est-ce qu'un Kantien trouve à dire de cela? Qu'est-ce qu'il fait face au monde?
Face au monde, je ne sais pas, parce que la première question morale, si vous voulez, c'est de faire, et c'est ça qui était évidemment paradoxal chez Kant, c'est de faire abstraction du monde.
C'est bien le problème, pardon.
Pour fonder, bien sûr, pour fonder la morale, pour rendre raison, si je puis dire, raison pratique en l'occurrence, de la morale. Alors, que fait-il? Eh bien, la raison pratique ou la loi morale, elle n'est pas simplement, je dirais, une injonction pour le sujet qui en est le producteur ou le détenteur. Elle est aussi un principe de jugement. C'est-à-dire qu'il est évident que la loi morale, c'est ce qui me permet aussi d'évaluer les actions et les intentions d'autrui. Hein. Il y a toute une théorie du mal chez Kant. Qu'est-ce que c'est que la loi morale? Qu'est-ce qu'elle nous commande, au fond? Alors justement, la grande question de Kant, c'est que dois-je faire? Mais il ne faut pas entendre que dois-je faire au sens de qu'est-ce qu'il faut concrètement que je fasse pour être moral vertueux. C'est beaucoup plus comment dois-je agir? Et le critère, si vous voulez, c'est qu'il faut, c'est la formule de Kant, universaliser sa maxime. C'est-à-dire une maxime, c'est une intention subjective. Il faut que ce que je projette en quelque sorte de faire puisse être adopté par tous les autres, c'est ça l'universalisation, de telle sorte que cela ne soit pas contradictoire. Exemple, qui est l'exemple que Kant prend le plus souvent, l'exemple du faux témoignage ou l'exemple du mensonge. Bon. Admettons que je veuille tromper quelqu'un.
Vous prenez des risques, Michael Fossel, hein, parce que c'est quand même c'est là que le bât blesse. Hein.
Il faut aller tout de suite au plus difficile.
Alors allons-y. Ouais.
Alors, exemple, donc, il est catégoriquement, pour le coup, interdit de mentir. Pourquoi? Eh bien, parce que dans l'intention, la maxime qui consiste à vouloir tromper autrui, évidemment, est présupposée l'idée tout de même que la vérité existe. Que serait le mensonge dans un monde sans vérité? Le mensonge n'est en quelque sorte utile et n'a même de sens que s'il y a celui à qui on l'adresse, il croit, donc croit à la vérité de ce que l'on dit. Imaginons, dit Kant, enfin c'est pas exactement l'imagination, c'est la raison elle-même qui produit cet acte, tous mentiraient, universalisons notre maxime. Qu'est-ce que serait, au sens littéral, un monde où tout le monde mentirait ou chercherait à tromper autrui? Eh bien c'est un monde qui, du fait même que la vérité disparaîtrait de son horizon et de sa réalité, rendrait le mensonge en quelque sorte absurde, encore une fois. Exactement, autre exemple, on reviendra sans doute sur le mensonge, la propriété, le vol. Qu'est-ce serait un monde où tout le monde volerait? Eh bien, un monde d'où disparaîtrait la propriété privée. Le voleur présuppose bien l'existence d'une propriété privée de celui qu'il vole, et l'honnêteté de celui qu'il vole. En conséquence de quoi, Kant veut montrer qu'une action n'est morale, ou plutôt une intention, une maxime n'est morale, qu'à la condition que son universalisation, c'est-à-dire que tout le monde, encore une fois, agisse de cette sorte, par hypothèse, maintienne la possibilité d'un monde.
Très, très concrètement, un homme grille un feu, il est minuit et demi dans une ruelle, un homme est en voiture, il n'y a personne, il n'y a aucun passager, enfin il n'y a personne, aucun piéton, il n'y a aucun danger, ça n'est même pas un carrefour, le feu est là, rouge, l'homme est pressé de rentrer, il grille le feu. Manque de chance, il y a là un officier de la force publique qui le voit et qui le verbalise. À quoi le conducteur pourra dire de bonne foi, enfin monsieur, voyez bien que ne risquez rien, monsieur l'agent, avec tout le respect que je vous dois, voyez bien que je ne mettais en danger la vie de personne, etc., etc. L'officier de police, à ce moment-là, lui fera probablement une réponse kantienne sur le thème, oui, mais si tout le monde en faisait autant, est-ce qu'on pourrait comprendre ça comme ça?
Pas exactement, en ce sens que l'interdiction de griller un feu est une interdiction d'ordre juridique. Et précisément, vous parlez de l'agent, c'est-à-dire que la différence entre la morale et le droit, pour Kant, c'est que dans le droit, on n'est plus dans la sphère de la subjectivité intérieure, de la moralité. Il y a, je dirais, bon, un policier, en tous les cas, un État qui est là pour agir. Donc c'est un délit de griller un feu, hein, par hypothèse.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, justement, chez Kant, un élément coercitif dans cette morale?
Il y a un élément coercitif, mais là aussi, il faut faire très attention, parce que tout dépend. Griller un feu, si vous voulez, ou passer au feu rouge ou au feu vert, n'est pas, au sens strict, une maxime. Parce qu'évidemment, on pourrait dire, après tout, je ne sais pas moi, a-t-on le droit de fumer? Bon, bah, imaginons un monde où tout le monde fumerait. Bon, alors évidemment, c'est un monde qu'on pourrait juger indésirable, ou un monde dangereux, ou un monde où l'espérance de vie, etc. Bon, serait. Mais ce n'est pas une maxime de fumer. Ce n'est pas une intention morale au sens qu'elle engagerait, si vous voulez, la liberté des individus. Ça pourrait être de l'ordre, disons, des intentions, au sens du terme allemand, pardon, Absicht, que Kant utilise. C'est-à-dire, on dit c'est une morale de l'intention, mais c'est l'intention, au sens du terme allemand Absicht, c'est ce que je m'apprête à faire. C'est un projet, si vous voulez. Et ces projets-là sont hors de la morale, dès lors qu'ils n'engagent pas, encore une fois, la figure d'autrui. Donc, je dirais que dans le cas, évidemment, où griller un feu rouge n'entraîne pas le risque pour le piéton, dans le cas où fumer une cigarette n'engage pas le risque pour d'autres, si tant est que ce risque existe pour ceux qui ne fument pas, dans ce cas-là, je dirais, il faut éviter ce que Kant, d'ailleurs, a appelé les chausse-trappes de la moralité, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, à chaque instant, il faudrait comparer, en quelque sorte, notre intention à l'universel. Cela ne doit avoir lieu, encore une fois, que lorsqu'il est question véritablement de problèmes de nature morale, c'est-à-dire de la possibilité d'attenter à la personne et à la liberté des autres.
Venons-en au mensonge, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, on est passé du mensonge au vol, subrepticement. Revenons-en au mensonge. Alors voilà, cette fois-ci, on est là en présence d'un geste qui relève précisément de la morale. On n'est pas dans une chausse-trappe de la moralité. Qu'est-ce que Kant répond à celui qui, devant des officiers de la Gestapo, refuse de dire qu'il cache des juifs ? Leur ment en disant « je ne cache personne ».
Alors, ce qu'il aurait répondu dans ce cas d'espèce, je ne peux pas le savoir, mais il se trouve qu'il a répondu à Benjamin Constant, qui lui posait
précisément... C'est le sens de ma question. Alors, il faut rappeler les termes du débat,
voilà, Michael Fossel. Bien sûr, Benjamin Constant donc, avait écrit un petit texte à la fin du XVIIIe siècle pour critiquer Kant, sans le nommer, mais enfin c'était clairement lui qui était désigné, au nom de cette espèce d'absolu qu'il ferait dans la véracité. Il faut toujours dire la véracité. Et Benjamin Constant avait pris comme exemple précisément celui d'un ami qui viendrait vous rendre visite, qui viendrait se cacher chez vous, poursuivi par des policiers, etc. Et que vous cachez. Alors que faites-vous effectivement lorsque la police arrive et qu'elle vous demande « avez-vous vu un tel ?» et que vous ne pouvez pas mentir dans une hypothèse kantienne, et donc vous êtes censé dire qu'il est caché, et donc évidemment vous le faites courir à sa perte. Alors, cela dit, il a répondu quant à Benjamin Constant. Il maintient son principe de la véracité. Alors, il ne dit pas exactement pourquoi, et c'est pour ça ce texte. Moi, je ne voudrais pas être ici l'avocat absolu de Kant. Il y a des choses qu'on peut discuter. Mais enfin, tout de même, imaginons, puisque nous sommes dans une logique des exemples. Imaginons que l'ami que l'on cache, apeuré par le fait que les militaires, alors évidemment, le cas est d'autant plus dramatique si on prend des exemples de la Seconde Guerre mondiale, saute par la fenêtre pour s'enfuir. Et que dans ce cas-là, évidemment, si on est dans une perspective de Benjamin Constant, le mensonge comme moindre mal, si vous voulez, on dit, effectivement, il n'est pas là, il faut que vous repartiez, il n'est pas là. Donc admettons dans ce cas-là que les policiers redescendent et croisent celui qu'ils cherchent et le tuent à ce moment-là. Qui est responsable ? Est-ce celui qui n'a pas menti ou est-ce celui qui a menti ? Ce n'est pas de la casuistique, ou plutôt, c'est ce que je viens de dire là, c'est une forme de casuistique au sens où Kant dirait, je suppose, on ne peut que reconstituer sa réponse, si l'on part d'exemple, tout peut être démontré. Tout est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut mentir ou qu'il ne faut pas mentir. Que si l'on accepte effectivement de mentir, les conséquences pourraient être pires que si on ne le fait pas. Kant, c'est fondamentalement une éthique anti-conséquentialiste.
C'est ce que j'allais vous dire. Donc, dans quelle mesure peut-on prendre en compte le calcul des conséquences, puisque c'est une éthique qui relève de l'intention et non pas du calcul des conséquences ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut envisager les conséquences de celui qui dit la vérité au lieu de mentir au policier qui lui demande s'il cache quelqu'un, à partir du moment où c'est par principe qu'il faut toujours dire la vérité ?
Ce qui est inconditionnel pour Kant, si vous voulez, c'est le devoir non seulement de dire la vérité, mais aussi de protéger la victime. En conséquence de quoi il suffira
pas. Donc, il y a conflit ici, comme dirait Kant.
Il y a conflit, sauf que ce qui est sous-entendu par Kant, c'est qu'il est clair qu'il faut tout faire pour empêcher ceux qui recherchent le fugitif, l'ami fugitif, pour empêcher qu'il ne soit pris,
donc, un kantien dit à la Gestapo, oui, je cache des juifs, mais vous n'irez pas le chercher.
Ça m'est très, très, très délicat, parce que vous prenez un exemple, si vous voulez, dans le sens, si vous voulez, d'intensité, si vous voulez, dramatique et absolue, parce que au fond, il y aurait un autre aspect qu'on pourrait dire. Je ne sais pas ce qu'un Kantien répond à la Gestapo en tout état de cause, et ça permettrait d'évoquer d'autres aspects par rapport à ce qu'on dit sur Kant. Il serait dans la résistance, ça c'est certain. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez répondre à ce cas-là, alors à celui qui va clasher Touvier, parce que c'est un ami ? Est-ce que l'amitié doit être un principe absolu qui doit justifier toute espèce de... L'Église l'a fait, après tout, hein, une partie de l'Église, en tous les cas, cacher des collaborateurs. Est-ce que l'amitié, donc quelque chose qui relève du sensible pour Kant, de l'affectif, disons, doit être un principe absolu? Et sinon, ce que je suppose n'est pas votre avis, quel type d'amitié? À partir de quand, si vous voulez, une amitié devient-elle un principe positif? C'est-à-dire là, on va sauver des victimes, mais lorsque l'on protège des coupables, et des coupables des pires des crimes, que fait-on alors?
Alors, restons encore un instant sur ce débat. On va continuer dans la critique de la raison pratique, mais restons un instant sur ce débat. Vous connaissez cette nouvelle de Mérimée qui s'appelle Matteo Falcone?
Ah non.
C'est une nouvelle sublime. C'est dans les nouvelles corses de Mérimée. Matteo Falcone est un berger corse. Bon, il a un enfant, son fils unique, qui est l'amour de sa vie. Enfin, il l'adore. Et arrive à ce moment-là, le père part à la chasse le matin avec sa femme, et le petit accueille à ce moment-là un brigand qui est là, qui lui dit « protège-moi, protège-moi, je suis poursuivi par les policiers ». Et le petit cache à ce moment-là le brigand, le voleur, dans l'étable, enfin sous du foin, enfin bon, il le cache. Arrive à ce moment-là le policier qui lui dit « Est-ce que tu as vu passer un brigand ?» Le petit ment mal et lui dit « Bah non, je ne l'ai pas vu. » Le policier sent bien qu'il est là. Et il sort de sa poche à ce moment-là une montre en argent et lui dit « Écoute, tu vois cette montre, je te la donne si tu me dis où est le brigand. » Le petit hésite un peu, il la voit, puis il fait signe de l'œil au policier qui se jette à ce moment-là sur le tas de foin où se cache le brigand et le capture. À ce moment-là, Matteo Falcone revient. Le policier s'approche de Matteo Falcone et lui dit « Mais on vient de capturer le tel voleur de poules. » Il dit « Ah, mais voilà une bonne nouvelle parce qu'il m'a encore volé deux poules la semaine dernière. Je suis content que tu l'aies capturé. Bravo, cousin. » Et le policier lui dit « Et en plus, on l'a capturé grâce à ton fils. » Et à ce moment-là, l'autre blêmit, se tourne vers sa femme. La réplique est célèbre. Il lui dit « Femme, cet enfant est-il de moi ?» Il comprend à ce moment-là que c'est son fils qui l'a dénoncé en échange d'une montre en argent qu'il voit dans la main de son fils. Le brigand s'en va, demande au policier de bien le traiter, de bien l'installer confortablement sur le brancard parce qu'il est blessé. Les policiers s'exécutent d'ailleurs. Il crache devant la porte de la maison en disant « C'est la maison d'un traître. » Matteo Falcone se couvre le visage, emmène son fils dans la forêt, lui fait réciter deux prières et le tue.
Alors, votre question, c'est de savoir quelle serait l'analyse, une analyse kantienne, si l'on veut, de cette
question
de
implicite.
Cette histoire, oui, bah, elle montre effectivement que, au fond, il y a une ambiguïté fondamentale, et même une équivocité, d'alors que l'on part, disons, d'une psychologie, au fond, de la morale, c'est-à-dire, on voit bien le personnage être à la fois dans la réjouissance de l'arrestation, puis dans la honte de la trahison. Si Kant a quelque chose à nous apprendre, c'est que précisément, il ne faut pas en rester à la psychologie ou à la culture qui consisterait à la culture de l'omerta, en l'occurrence, puisque c'est celle qui est visée dans votre exemple, qu'au fond, tout cela existe, bien évidemment, c'est pas une négation, si vous voulez, du réel, le kantisme, mais que nous n'avons, au fond, aucune espèce de chance de fonder quelque chose comme une morale sur ce type de relativité-là, psychologique, affective, culturelle, sociale. Alors peut-être peut-on dire, dans ce cas-là, mais ça n'est pas l'option de Kant, du coup, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale universelle et nous sommes... Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà.
Ça, c'est la phrase de Pascal. Rappelons-le quand même.
La phrase de Pascal, de
dire que voilà, il n'y a pas plus de morale que de vérité, en l'occurrence.
Il n'y a pas plus de morale que de vérité. Mais pour Kant, au fond, la question, ce serait s'il y a une morale, alors voilà ce qu'elle est. Voilà. Et ce qu'elle est, encore une fois, c'est une morale fondée sur une loi absolue, inconditionnée, comme il le dit, l'impératif catégorique, qui doit faire abstraction, juste un mot là-dessus, des circonstances, mais non pas dans sa réalisation. Kant ne dit pas qu'au fond une bonne intention suffit et qu'après il faut s'en laver les mains. Il y a cette phrase aussi de Peggy célèbre, le kantien a les mains propres mais il n'a pas de mains.
Les mains pures
mais il n'a pas de mains. Bon, ça n'est pas exact parce qu'il appartient au devoir de faire en sorte que l'intention morale que en quelque sorte nous adoptons se réalise autant que possible. Alors c'est vrai que en revanche pour Kant, les conditions du monde, les conditions de la situation dans laquelle j'agisse, je ne les maîtrise pas. Elles sont par définition traversées par des déterminismes naturels, sociaux, des interactions. Donc je ne suis pas responsable de ce que je fais jusqu'au terme de l'acte, mais je suis responsable de faire en sorte de faire tout ce que je peux pour que le terme de l'acte ou le terme de l'action soit fidèle à l'intention morale que j'ai adoptée.
Pour être philosophe, Kant n'en était pas moins homme. On est accompagné toute cette semaine avec vous, Michael Fossel, par des extraits du film Les derniers jours d'Emmanuel Kant de Philippe Collin, film qui est tout entier tiré de la nouvelle de Thomas de Quincey, enfin du livre de Thomas de Quincey, petit livre, dans lequel il décrit Kant et il incarne Kant. on retrouve ici le philosophe donc de la moralité ou des conditions du devoir, mais cette fois-ci en situation, comme à chaque fois d'ailleurs. Et c'est le même homme, Kant, qui est décrit comme un homme plein de manies, hein, un homme qui d'abord avait l'habitude de faire bonne chère, qui fumait 2 pipes par jour, qui se levait à la même heure, et qui, très tôt le matin, qui, quand il invitait les gens à dîner, n'invitait jamais moins de 3 personnes, ni plus de 9, pour n'avoir pas plus des 3 grâces, moins des 3 grâces, ni plus des 9 muses à sa table, un Kant plein de manie, qui attendait à la fin du repas son café, qui, quand il voyait arriver son café, raconte Thomas de Quincey, criait « Terre, terre, je vois la terre » comme une vigile en haut d'un mât. Ici, l'extrait de ce film décrit Kant expliquant qu'il ne faut surtout pas travailler après les repas pour être en bonne santé. Est-ce qu'on est là toujours chez Kant? Ce qui est certain, c'est qu'on est chez lui, dans son domicile.
J'ai reçu ce matin une lettre de ce cher Yacman. Il vous transmet ses respects. Il se plaint d'une grande fatigue. Il travaille trop.
Mais non, il est tout à fait imprudent. Je lui avais pourtant dit. Vous comprenez, il travaille, et intensément d'ailleurs, après le repas de midi et même le soir. C'est un régime qui agresse toutes les forces, surtout quand on n'est pas un athlète. Voilà bientôt 15 ans que j'ai abandonné ce genre fantasque d'emploi du temps. Qu'il se lève tôt, qu'il travaille le matin, qu'il consacre ses après-midi aux lectures faciles, aux pensées décousues, qu'il se prépare à la nuit, sa santé reviendra. Enfin, chacun a sa propre manière d'être en bonne santé, le tout c'est de la trouver.
Michael Fossel est notre invité toute cette semaine pour parler d'Emmanuel Kant. Michael Fossel, on vient d'entendre un extrait d'un film, donc Les derniers jours d'Emmanuel Kant de Philippe Collin, dans lequel Kant explique qu'il ne faut pas travailler après les repas pour être en bonne santé. L'un des reproches les plus bêtes qu'on peut faire aux philosophes, hein, en général, c'est de dire « oui, les philosophes sont des esprits purs, n'est-ce pas, qui vivent dans le ciel des idées et qui pourtant ont un corps avec lequel ils sont obligés de composer ». Néanmoins, j'ai envie de vous demander si ce reproche, en tout cas ce décalage que les mauvais esprits constatent, n'est pas éventuellement pertinent en ce qui concerne un philosophe comme Kant, précisément, qui était, malgré ce qu'il pensait, confronté à la nécessité d'avoir un corps et pris en permanence dans des impératifs hypothétiques.
Oui, vous faites référence aussi ici à la biographie, je dirais, presque légendaire de Kant, du fait même qu'elle n'est traversée par aucun événement notable. Il y a cette phrase de Heinrich Heine lorsqu'il dit « il est difficile d'écrire l'histoire de la vie d'Emmanuel Kant puisqu'il n'eut ni vie ni histoire ». Bon, alors, bien sûr, Kant avait un corps, ça c'est une chose qu'on peut savoir avec certitude. Il a traité de tout ce qui relève du corps et aussi de la vie sociale, des habitudes, du plaisir que l'on peut avoir dans la sociabilité, du plaisir que l'on peut avoir dans les dîners, etc., dans des textes, en particulier un qui s'intitule « L'anthropologie d'un point de vue pragmatique », c'est-à-dire dans des textes qui portent sur le rapport de l'homme au monde, précisément, l'homme dans le monde, cette fois-ci, plus l'homme dans son intériorité morale dont on parlait, c'est plus le point de vue pratique, mais le point de vue pragmatique. Alors, on ne peut pas, à mon sens, déduire la morale, enfin ni la morale ni la pensée kantienne de sa biographie, pas plus que pour n'importe quel autre auteur. On pourrait penser, comme Nietzsche d'ailleurs, qu'il y a un rapport entre l'ascétisme, ça serait plutôt l'inverse si vous voulez, c'est l'ascétisme de la pensée qui aurait une sorte de, qui s'incarnerait en quelque sorte dans le corps maladif de, enfin maladif ou en tous les cas peu enclin à la jouissance de Kant. Alors l'idéal de Kant n'est pas en ce sens, à mon avis, un idéal un idéal ascétique. Bon,
Là, vous reprenez, rappelons-le aussi, hein, l'expression de Nietzsche. Hein,
l'expression de Nietzsche dans la généalogie de la morale sur l'idéal ascétique, qu'il ne fait pas remonter à Kant. C'est d'abord Saint Paul, c'est d'abord le christianisme. Bon.
Mais Platon avant lui, d'ailleurs.
Hein. Platon avant lui, c'est la métaphysique qui, au fond, chercherait toujours dans la vérité, dans un déni du corps, donc au fond, pour Nietzsche,
un
dans
déni
la mort.
De la réalité, et donc mort, dans la mort.
Dans oui. la mort. Évidemment, on pourra toujours répondre à cela qu'il y a des textes de Kant où il parle du plaisir de boire, du plaisir de manger, du plaisir de converser, etc. Ces textes existent, ça n'est pas douteux. Mais ce n'est pas seulement ça le problème. Au niveau des principes même, je dirais, de la philosophie, de la morale kantienne, dans la morale kantienne, il n'est jamais question de nier ses désirs. C'est pas la liberté ou la morale contre les désirs. Il faut renoncer à ses désirs seulement et exclusivement dans les cas où le fait d'y obéir contreviendrait à la loi morale. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas d'opposition entre la recherche de son plaisir et l'action morale ou légale. Là où Kant parle de mal, ou il parle de faux dans tous les cas, c'est lorsque l'adoption de mon désir comme intention, comme principe d'action, vient en opposition avec la loi morale. Le désir, c'est un point tout à fait fondamental, les désirs, quels qu'ils soient, charnels, sensuels ou sociaux d'ailleurs, hein, la richesse, la recherche de la richesse, la recherche de l'ambition, etc. Les désirs en tant que tels ne peuvent pas être qualifiés d'immoraux, ils sont amoraux, sans strict, pour une raison très simple mais fondamentale pour Kant, c'est que dans l'ordre des désirs, il n'y a pas lieu, il n'y a pas de liberté. N'est moral, quelque chose ne devient moral, une intention ne devient morale que si je suis libre de la suivre ou de ne pas la suivre.
Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, qui est donc cette critique de la raison pratique, enfin, version pour la critique de la raison pratique pour les nuls, pour reprendre un titre fameux.
Jusqu'à la deuxième section, après ça se complique
un peu. Oui, après ça se complique un peu, mais donc dans les fondements de la métaphysique des mœurs, il y a ce passage fameux, vous allez me rappeler où il se trouve, dans lequel Kant s'en prend à l'épicurisme, au stoïcisme, et un passage dont on se sert pour dire que Kant n'aime pas le bonheur, on y dit que le bonheur est un idéal indigne de l'homme. L'homme vaut mieux que le bonheur. En général, c'est à cela qu'on réduit justement ces passages. Et en même temps, c'est un passage dans lequel Kant dit « il vaut mieux être heureux ». Où l'on peut entendre d'ailleurs « il vaut mieux avoir du bien-être hein. ». On se demande si pour Kant, le bonheur, c'est pas tout simplement le bien-être. Il dit « il vaut mieux être heureux dans la mesure, dit-il, où ne pas être heureux serait une grande tentation d'enfreindre ses devoirs ».
Bien sûr, le malheur, c'est une tentation permanente d'auto-justification.
Le malheur, c'est l'inconfort hein, ici, hein.
Oui, bien sûr, c'est l'inconfort. Le bonheur, il le qualifie ou il le définit, mais c'est une définition, je dirais, presque contradictoire, comme un idéal de l'imagination. Évidemment, pour Kant, la seule faculté qui peut produire un idéal, c'est la raison, un vrai idéal. Et donc ça, c'est l'idéal moral. Un idéal de l'imagination, cela veut dire quoi? Cela veut dire, au fond, qu'il y a, et là, Kant est très moderne, autant de sujets, autant de conceptions du bonheur que de sujets. Et donc, on ne peut rien fonder là-dessus. Mais dire qu'on ne peut rien fonder là-dessus, en tout cas qu'on ne peut pas fonder une morale sur la recherche du bonheur, ça n'est pas condamner la recherche du bonheur, qui pour Kant est la chose, au fond, la mieux partagée au monde. Tout le monde recherche le bonheur. Mais personne ne recherche la même chose en recherchant le bonheur.
Oui, c'est une inclination, dit-il.
C'est une inclination naturelle, et je le répète à ce titre, pas mauvaise, même au contraire, plutôt bonne, au sens où elle participe de la nature humaine. Mais on ne recherchera pas dans le bonheur, on ne pourra pas, au fond, identifier l'intention morale à la recherche du bonheur, sauf, et ça c'est intéressant, à supposer que l'on pourrait donner une définition univoque du bonheur qui conviendrait à tous. Et cela, Kant a dans plusieurs textes, une définition, enfin une appellation très stricte pour ce type de tentative qui consiste à faire du bonheur un concept qui doit valoir pour tous, c'est le despotisme.
C'est le despotisme. Et de ce point de vue, de la même façon que Kant est un critique à l'avance du scientisme, Kant est un critique à l'avance du totalitarisme, c'est-à-dire de l'idée qu'il faut faire le bonheur des hommes malgré eux, puisque ça n'est jamais qu'une certaine idée du bonheur qu'on impose à des inclinations qui, elles, sont subjectives. Oui. Et tous les hommes, ou chaque homme, ne se fait pas la même idée du bonheur.
Exactement.
Vous avez cité tout à l'heure, Michael Fossel, l'anthropologie d'un point de vue pragmatique. On va entendre tout de suite un texte, justement, de cette anthropologie, pour voir ce que Kant, justement, peut dire quand il s'occupe de ce qu'on pouvait appeler la réalité du praticable et non plus du pratique. Écoutez.
Les hommes sont dans l'ensemble d'autant plus comédiens qu'ils sont plus civilisés. Ils adoptent l'apparence de l'affection, du respect d'autrui, de la décence, du désintéressement, sans tromper personne, car chacun parmi les autres entend bien que le cœur n'y a point de part. Il est au demeurant très bon qu'il en aille ainsi dans le monde. Par le fait que des hommes jouent ces rôles, les vertus qu'ils se sont un certain temps contentés d'affecter finissent bien par être éveillées et elles passent dans leur disposition d'esprit. Cependant, tromper l'imposteur qui est en nous-mêmes, l'inclination, est à l'inverse retour à la soumission à la loi de la vertu, et non point tromperie, mais une manière innocente de nous donner le change. La nature, sagement, a implanté en l'homme le penchant à se laisser tromper, dans l'intention suprême de sauver la vertu, ou du moins de mener à elle. L'honnête maintien est une apparence extérieure qui inspire aux autres la considération de ne pas verser dans la vulgarité. Les femmes, à vrai dire, ne seraient guère satisfaites si le sexe masculin ne rendait pas hommage à leur charme. Mais la décence, contrainte exercée sur soi-même, qui dissimule la passion, est une illusion fort salutaire pour susciter entre l'un et l'autre sexe la distance nécessaire à ce que l'un d'entre eux ne soit pas avili en simple instrument de jouissance de l'autre. La courtoisie est un semblant de politesse qui rend aimable. Les révérences et tout l'attirail de galanterie de cour, ainsi que les plus chaudes protestations d'amitié, ne sont certes pas toujours précisément la vérité. Mes chers amis, il n'y a point d'amis, disait Aristote. Du moins, ne trompe-t-il pas pour autant, parce que chacun sait à quoi s'en tenir, et surtout que ces marques de bienveillance et de considération, vides tout d'abord, mènent peu à peu à de réelles dispositions de toutes sortes.
I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. That's it.
Le rire de sorcière de Janis Joplin, qui vient ponctuer un extrait de l'Anthropologie d'un point de vue pragmatique. Janis Joplin, la chanteuse préférée de François Connac. Et Michael Fossel, qui est avec nous pour parler d'Emmanuel Kant et de la critique de la raison pratique que nous parlons aujourd'hui, mais également de l'anthropologie d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire d'un Kant qui s'occupe de la courtoisie, de la décence, de l'apparence, et qui ne se contente pas d'élucider les conditions du devoir. On va partir de la chanson elle-même, la prière de Janis Joplin. C'est une prière à Dieu, c'est une prière dans laquelle elle demande à Dieu de lui donner une Mercedes, de lui donner une télé, de payer ses mensualités. Bref, c'est une prière tout à fait, alors là pour le coup, on est dans l'impératif hypothétique, s'il te plaît Dieu, sois sympa, donne-moi ce dont j'ai besoin. On est ici, alors là pour le coup, véritablement en pleine humanité également.
Bien sûr, on est en pleine humanité. Alors, il se trouve qu'il y a des textes de Kant sur la prière qui ne seraient pas très favorables à Janis Joplin, je dois le dire, ou en tout cas cette chanson, puisque il dit d'abord, bon, la prière, il pense que c'est un acte quasiment contradictoire, puisque on prétend apprendre quelque chose à Dieu. Or, comment peut-on imaginer que Dieu ne sache pas déjà qui nous sommes, et a fortiori si cette prière est une prière de demande. Alors bon, la Mercedes, etc. Si c'est une prière de demande, au fond, elle est quasiment contradictoire, hein, au sens où Dieu le sait, premièrement, et encore une fois, bon, pour Kant, ça, on est bien obligé de le dire, ce qui importe dans la religion, Ce n'est pas le bonheur qu'elle nous promet, mais c'est de se rendre digne de ce bonheur et en conséquence d'agir de manière vertueuse. Pour autant, bien évidemment, il ne faut pas voir ou imaginer en Kant ou dans le kantisme, à partir de sa pensée, un jugement permanent sur toutes les manifestations d'humanité, de finitude. Loin s'en faut, c'est une pensée de la finitude tout à fait radicale.
Et c'est ça le paradoxe quand même, c'est parce que Kant est un penseur de l'homme comme être inachevé, de l'homme comme inscrit dans une finitude, et pourtant, on dirait que sa pensée a, pardonnez-moi, la nostalgie permanente, justement, de l'absolu, dont la critique de la raison pure fait son deuil.
Oui, j'ai raison de dire ça ou j'ai tort ? En un sens, il réinvestit l'absolu dans la critique de la raison pratique. L'absolu, c'est la liberté. Sauf que la liberté n'est pas un absolu au sens des absolus métaphysiques perdus, comme Dieu ou l'immortalité de l'âme. La liberté, c'est un absolu du devoir-être. L'absolu est du côté de ce que je dois faire. Donc on maintient, si vous voulez, cet inachèvement. Là, pour le dire avec les termes même de Kant, Kant, c'est une éthique de la vertu, pas de la sainteté. Et il distingue en permanence la vertu et la sainteté. La sainteté, c'est le fait de faire spontanément son devoir. Et cela, c'est un idéal, au meilleur sens du terme idéal, mais enfin auquel l'homme ne peut pas prétendre. Il ne doit d'ailleurs pas essayer même de croire, de confondre sa vertu avec sa sainteté. La vertu, c'est l'effort en vue de rendre ses actions compatibles avec ce qu'exige la loi morale. Mais cet effort est par définition indéfini.
En somme, Kant, et de ce point de vue, il appartient véritablement à une tradition philosophique, conserve de la philosophie l'ambition d'être l'amour de la sagesse, c'est-à-dire l'asymptote, la quête indéfinie d'une sagesse à laquelle on ne parvient jamais. Il n'y a pas chez Kant l'idée que, en somme, les termes seraient réversibles, l'idée de sagesse de l'amour qui nous tournerait vers une vertu spontanée, la vertu du mystique, la vertu du saint, c'est-à-dire, en somme, il y aurait d'un côté Kant et de l'autre Spinoza.
Oui, c'est pas un savoir absolu en tous les sens du terme. Lorsque je parlais de finitude, Kant, c'est finitude de la connaissance, mais on dit souvent, cela veut dire, bon, critique de la métaphysique, on ne connaît pas Dieu, nous avons évoqué ça hier. Mais de la même manière, finitude de la connaissance, c'est critique du mysticisme. Les sens, le sensible, l'intuition, les sentiments ne nous diront pas plus sur Dieu ou relativement à Dieu que la raison. En réalité, Kant est aussi éloigné, je dirais, disons, de Pascal que de Leibniz, en ce sens que pour lui, nous n'accédons jamais à un savoir ce qui nous dépasse ou du transcendant. Que ce soit un savoir rationnel, Leibniz, la métaphysique, que ce soit un savoir de type, je dirais, moral ou au sens de la... de l'expérience. Il n'y a pas d'expérience de Dieu, si vous voulez, à quel que soit le sens du mot expérience, que ce soit la connaissance théorique ou que ce soit l'intuition mystique.
Mais alors comment ce refus de l'expérience de Dieu ne le tourne pas vers la constatation finalement que nous ne pouvons faire qu'avec les passions trivialement humaines qui sont les nôtres ? À quel titre maintient-il, en somme j'en reviens à cette idée de nostalgie, à quel titre est-ce qu'il maintient ce goût de l'expérience de Dieu tout en disant qu'elle n'est pas possible ?
Mais parce que ce qui dépasse d'une certaine manière les passions, ce n'est pas, enfin, ce qui dépasse le fait que l'homme est assujetti à ses passions, l'animalité dont parlait un texte qui a été lu tout à l'heure, ce n'est pas Dieu, c'est la raison. La grande thèse de Kant, c'est que la raison est pratique. Alors qu'est-ce que cela veut dire, la raison est pratique ? Ça veut dire que la raison, qui est humaine, fondamentalement humaine, humaine est capable de produire, pratique veut dire morale, est capable de produire par elle seule une loi à laquelle je dois obéir en tant que sujet, moral, et qu'elle n'a donc besoin ni des sentiments, contre, si vous voulez, la thématique de la sympathie, de la pitié qu'on trouve chez Rousseau, chez Hume, c'est-à-dire, au fond, pour être moral, j'ai besoin d'éprouver quelque chose par rapport à la figure d'autrui. La critique de Kant, c'est toujours la même. Au fond, que va-t-on faire alors de celui qui n'éprouvera rien circonstanciellement ? On est toujours dans une logique de la situation. Est-ce que ça va l'exonérer d'agir moralement ? Non. Donc on ne peut pas fonder la morale sur des sentiments. Et la raison est pratique, ça veut dire, elle n'a pas besoin de connaître théoriquement pour savoir ce que je dois faire. Ça, c'est une thèse fondamentale de Kant. Au fond, je n'ai pas besoin de connaître qui je suis. Je n'ai pas besoin de connaître Dieu ou de connaître le monde, et cela tombe bien, puisque je n'ai jamais de connaissance, finalement, définitive de ces choses, pour savoir ce que je dois faire. Ce n'est pas une morale théologique, ce n'est pas une morale anthropologique. La nature humaine ne m'apprendra pas ce que je dois faire, le Dieu non plus. Au fond, la raison est capable ou produit, c'est le postulat même du kantisme dans le domaine moral, elle produit une loi par elle seule, c'est-à-dire qui ne suppose pas de connaissance. Cela a une conséquence, si vous voulez, très 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 simple, c'est que Kant énonce dès les fondements de la métaphysique des mœurs, lorsqu'il dit, au fond, moi, ce que je fais, j'énonce la morale de l'homme commun. Ce n'est pas le propre du philosophe qui connaît d'être moral, si vous voulez. Kant est fondamentalement sur ce point, fondamentalement antiplatonicien. Le philosophe froid, c'est-à-dire l'idée que celui qui connaît doit en même temps diriger et commander, que, au fond, le savoir serait le support ou le fondement d'un pouvoir, pour Kant, c'est une idée qu'il refuse radicalement. En ce sens, il est démocrate.
Et Kant refuse-t-il également l'idée qu'un progrès moral va de pair avec un progrès technique? Est-ce que Kant est rousseauiste en ce sens? Parce que Rousseau, après tout, on en a parlé déjà dans les nouveaux chemins de la connaissance. Rousseau est le penseur de la dislocation du progrès moral et du progrès technique. Et même Rousseau va jusqu'à dire qu'un développement des sciences va avec une corruption des mœurs. Est-ce que Kant reprendrait à son compte finalement cette thèse de Rousseau, ou est-ce qu'il est davantage tourné vers la philosophie des Lumières et vers une espèce d'irénisme des Lumières qui vaudrait à l'homme de se développer en moralité à mesure qu'il se développe en connaissance?
Je dirais ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne partage pas le diagnostic, si vous voulez, de Rousseau, selon lequel il y aurait une contradiction absolue entre l'homme naturel et le progrès technique, ou entre l'évolution morale et le progrès technique. Mais en même temps, le progrès technique, comme son nom d'ailleurs l'indique, vaut pour les impératifs techniques. C'est-à-dire qu'au fond, il est indépendant, en termes kantiens, strictement indépendant, distinct de ce que l'on pourrait considérer comme un progrès moral. Il ne faut donc pas attendre de la science elle-même qu'elle produise, je dirais de manière mécanique, mais là où c'est mécanique, il n'y a plus de liberté, de manière mécanique, un progrès moral. En revanche, ce que le texte de l'anthropologie qui a été lu à l'instant indique, c'est qu'il y a une autre réalité que Rousseau, aux yeux de Kant, n'a pas pensé, c'est la culture. C'est pas les progrès de la science en tant que tel, c'est les progrès, je dirais, des habitus, de la manière dont les gens vivent. C'est ce qu'il explique dans ce texte. Lorsqu'il dit la courtoisie, certes, la courtoisie est souvent fondée sur de mauvaises raisons, ou des raisons en tout cas pas morales. On fait semblant d'aimer, on fait des révérences, etc. Bon. Mais l'hypothèse de Kant, c'est que petit à petit, un peu comme chez Pascal, hein, à force de s'agenouiller, si vous voulez, on finira par croire. Bon, petit à
c'est
petit.
C'est l'existentialisme pascalien. Vous voulez avoir la foi, agenouillez-vous et
voilà,
priez. Hein. Le geste précède la décision.
Et l'extérieur finira par retentir sur l'intérieur. Et bien, d'une certaine manière, pour Kant, c'est une pensée de la civilisation, ça c'est très clair, en ce sens que il y a un progrès de la légalité d'abord, pas forcément de la moralité, c'est-à-dire les individus agissent progressivement de manière de plus en plus retenue, et que l'on peut espérer, hein, là on retrouverait la prière si vous voulez, mais certainement pas savoir et connaître, on peut espérer que ces progrès dans l'ordre de nos comportements finiront par avoir une sorte d'effet rétroactif sur l'ordre de nos conscience et de nos intentions.
Est-ce qu'on n'est pas là en contradiction directe avec l'idée avec la sublimité de la morale kantienne ?
En ce sens que ce serait une morale qui trouverait à se réaliser dans le monde, vous voulez dire que
oui,
le sublime
en somme,
serait toujours
au-delà. Est-ce qu'il n'arrive pas à Kant ce qui est arrivé à Descartes, c'est-à-dire qu'en somme sa morale provisoire lui sert de morale toute la vie parce que la vie elle-même est provisoire ?
Oui, mais là, il n'y a pas au sens strict de morale provisoire chez Kant.
La
morale,
non, mais il y a une anthropologie.
Oui, bien sûr. Mais alors, je dirais, il y a une anthropologie provisoire. La morale, c'est ici, maintenant, tout de suite, si vous voulez. Il y a un côté, ça, radical chez Kant. On ne peut pas biaiser, si vous voulez, avec la morale, avec la liberté. Chez Kant, chez Descartes, il y avait une morale provisoire. C'est justement parce qu'il fallait attendre de connaître.
Il fallait attendre de connaître.
Alors que chez Kant, il n'y a pas besoin d'attendre de connaître. Hein. C'est précisément d'emblée déjà là. Donc, il y a une tension chez Kant, ça c'est certain, une contradiction je ne dirais pas, mais une tension entre, je dirais simplement, la vie telle qu'elle va et l'exigence absolue de la moralité. Mais cette tension, il la pense, parce que la vie telle qu'elle va, la courtoisie, etc., qu'il évoquait dans l'anthropologie, c'est du point de vue pragmatique. Au fond, Kant nous dit, en substance, nous vivons, il faut bien vivre d'une certaine manière, et la vie telle qu'elle doit être socialisée, y compris dans ce qu'elle peut avoir de mensonger ou de trompeur, pas au sens de la gravité du mensonge, mais au sens, disons, de l'illusion sociale. Mais avec cette espèce de principe qui doit être maintenu, que dans l'ordre de la morale, au fond, il faut transcender cette courtoisie, ces galanteries de cour, comme il le dit. C'est-à-dire que là, en revanche, on est dans l'idée d'une transparence, malgré tout, du sujet à lui-même. Mais cette transparence, et c'est ça peut-être le point le plus important, cette transparence n'a pas vocation à apparaître dans les relations sociales. Ce serait un monde totalitaire, vous en parliez tout à l'heure, un monde dans lequel il n'y aurait plus pas place pour le secret, pour les demi-vérités, etc. Pour Kant, au fond, la grande thèse étant que de toute façon, on ne sait pas si l'intention est morale, la conclusion, c'est qu'il ne relève d'aucun État, et même pas des individus entre eux, de sonder les reins et les cœurs. Laissons cela à Dieu, dirait Kant. C'est-à-dire laissons cela à celui dont on peut penser ou croire, qu'il est capable, lui, de savoir ce qui véritablement nous fait agir. Mais le mal commence lorsque, précisément, les hommes prétendent juger les hommes, eux-mêmes, sur leurs intentions. Or, leurs intentions sont cachées fondamentalement au regard. Kant cite souvent la phrase de Jésus, ne jugez pas. Voilà. Et c'est le principe même de sa philosophie. Commencez par juger vos propres intentions, mais ne jugez pas celles des autres qui, par définition, vous échappent.
Merci Michael Fossel, merci infiniment. C'était passionnant de vous entendre aujourd'hui comme hier. Et on vous retrouve demain d'ailleurs pour parler cette fois-ci de la critique de la faculté de juger, autrement appelée la troisième critique. On se demandera notamment ce qu'est le beau, plus exactement de quel droit celui qui dit c'est beau s'arroge le droit de parler au nom de tous. Michael Fossel, vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférences à l'université de Bourgogne, spécialiste de philosophie allemande et de philosophie politique. Vos élèves ont bien de la chance. Vos lecteurs aussi ont de la chance. Ils peuvent notamment vous retrouver dans un ouvrage intitulé « Kant et l'équivoque du monde » paru aux éditions du CNRS et plus récemment dans un livre plus facile également intitulé « La privation de l'intime » paru au Seuil en 2008. Retrouvez, téléchargez et podcastez, chers auditeurs, si vous le souhaitez, ces émissions toute la semaine sur notre site internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, régulièrement mise à jour par les soins de Tristan Grenacia. À la technique aujourd'hui, Alain Joubert, à la réalisation François Connac, assistante, collaboration, Geneviève Méric, Jennifer Murzo, Tristan Grenacia et Adèle Van Rett. France Culture, il est 17h50, tout de suite Albert Jacquard.